podcast de l'UA. Marie-Lise, pour continuer de brosser avec toi ton portrait en tant que chercheuse, y a-t-il des livres, des auteurs ou des autrices vers lesquels tu reviens pour poser un cadre de réflexion ou pour le mettre à l'épreuve ou pour affûter ou mieux dire une idée ?
Des ouvrages, bon alors en dehors de toute la bibliographie qu'on peut avoir autour de l'illégitimité, effectivement, je pourrais en citer trois. Qui ont vraiment façonné le travail de thèse. Le premier, c'est pas une historienne, c'est Florence Weber qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le sang, le nom et le quotidien, une sociologie de la parenté pratique » et qui est paru en 2005. Donc en fait là, l'autrice analyse la parenté pratique dont le but en fait c'est de mettre l'accent sur les relations entre les personnes, les parents et les enfants. Avec trois dimensions dans l'ouvrage, donc le sang, c'est-à-dire qu'elle insiste sur la transmission biologique et le pouvoir symbolique de la transmission biologique, le nom, qui renvoie à la dimension juridique des liens, on transmet son nom, et le quotidien, où vraiment l'accent est mis sur les relations construites au quotidien, considérant quand même la relation affective, les relations interpersonnelles et l'économie domestique. Alors, cet ouvrage, quand je l'ai lu, ça a vraiment été une révélation parce que, déjà, première chose, ces trois dimensions ne sont pas nécessairement superposées. Et surtout, le fait que les acteurs et les actrices ne leur accordent pas forcément la même valeur. Par exemple, pour quelqu'un, le sang, ça va être très important parce qu'on va parler de biologie, alors que pour une autre personne, le sang, ça va juste être, bon, voilà, j'ai un géniteur, mais... au quotidien, mon géniteur n'a aucun impact sur ma vie. Et alors, c'est un ouvrage de sociologie, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un ouvrage qui donne à voir une parenté qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement plastique, qui est extrêmement modulable et qui est un petit peu prend le contre-pied de ce qu'on peut avoir généralement dans les représentations, le père, la mère, les enfants, etc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant d'appliquer ça à la période médiévale, parce que la question, c'était de savoir ces enfants naturels, bon, est-ce qu'ils ont la transmission du sang, dans quelle mesure ils l'ont, la transmission du nom, dans quelle mesure il est altéré ou pas, et est-ce qu'il y a le quotidien. Et donc, essayer de voir un petit peu ça, en quoi ça pouvait influencer mon regard sur une famille qui est d'une complexité assez, assez impressionnante. Donc ça, c'est le premier livre, vraiment, celui-là, il me suit depuis 15 ans maintenant. Un deuxième ouvrage, c'est un collectif, dirigé par Maaike van der Luck et Charles de Miramont, et qui s'intitule « L'hérédité entre Moyen-Âge et époque moderne, perspective historique ». Paru en 2008. Donc ça, c'est un collectif qui propose une étude de la genèse médiévale et moderne du concept d'hérédité et qui souligne, alors les auteurs hein, et autrices du collectif soulignent qu'en fait, il y a une évolution du concept d'hérédité entre les années 1300-1325 avec ce qu'ils appellent un tournant héréditaire. Avec un renforcement de la dimension biologique et héréditaire de la noblesse et l'apparition de la notion de sang noble. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça commence au début du XIVe siècle et que ça rechange au XVIe siècle avec un discours sur l'hérédité qui se renforce beaucoup plus sur le sang, avec notamment l'apparition du Maurras. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est que je tombe pile sur les bornes chronologiques de la famille que j'étudie, donc les Bourbons. Et que la question qui se posait, c'était est-ce que justement les bâtards de cette période-là, donc ce qu'on a appelé, enfin, ce que Michael Herzog a appelé l'âge d'or hein, des bâtards nobles. Est-ce que justement l'idée d'hérédité, cette transformation intellectuelle, ce contexte intellectuel n'aurait pas favorisé d'une certaine manière la promotion des enfants naturels dans les familles nobles ? Et dans un tout autre domaine, le troisième grand livre qui a littéralement façonné une grosse partie de ma thèse, c'est la thèse publiée de Claude Jay, Signature et pouvoir au Moyen-Âge, parue en 2015. Et bon, alors, il propose une histoire de l'émergence de la signature entre le 12e et le 15e siècle. C'est assez classique, même si c'est très original. Mais surtout, moi, cet ouvrage, ça a été pour moi un modèle de méthode pour apprendre à lire et à décrypter une signature. C'est-à-dire qu'il y a une précision de la description de la signature point par point, où est-ce que le trait se forme, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, où est-ce qu'il se lève, où est-ce qu'il recommence, etc., dans la réalisation de la signature, qui m'a permis en fait d'apprendre à les lire, à les décrypter, où est-ce qu'on lève la main, où est-ce qu'on reprend le geste, etc. Et il montre notamment que c'est pas seulement un signe de validation, que c'est un geste politique, un élément de contrôle, un signe d'une volonté personnelle qui met en scène le nom d'une personne. Et là, là, ça a été une grosse partie de ma première partie de thèse, c'est de voir en quoi cette étude des signatures des enfants naturels leur montre une manière de s'approprier les marques de leur légitimité, de les détourner, de les mettre en évidence, donc de jouer visuellement avec pour faire valoir leur identité.
La recherche en sciences sociales naît généralement de la rencontre entre un questionnaire situé, d'une historienne comme toi, et d'une matière documentaire dont tu nous as déjà dessiné les contours. Pour se dire, l'analyse impose à son auteur ou son autrice de mobiliser des notions qui sont historiennes sans avoir à être médiévales, mais qui permettent de traduire la compréhension acquise des sources qui sont ainsi passées au crible. Alors, traduire, ici, dans mon esprit, c'est un terme très insuffisant pour donner à comprendre ce qui se joue dans le processus intellectuel à l'œuvre, quand on cherche à comprendre ou à donner à comprendre. Alors, je vais le garder, parce que j'aurais bien aimé que tu nous présentes quelques-uns de tes opérateurs de compréhension, mais aussi peut-être ce qui continue de résister, de te résister dans ta documentation, qui resterait encore un peu dans le champ des intraduisibles.
Une des notions fondamentales manipulées, ça va être la première, hein, c'est l'identité. C'est arriver à comprendre que, à l'image des autres membres du groupe, les bâtards ou les bâtardes s'inscrivent dans une pluralité d'identités où l'illégitimité de naissance n'est que l'une des composantes de cette identité. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des enfants naturels, ce sont aussi des seigneurs, parfois des épouses. Ils ont un âge, quand on arrive à les connaître, un sexe, une fonction, ou occupent une profession. Et poser la question de l'identité, c'est se demander ce qu'est, qu'est-ce que c'est que être un bâtard ou une bâtarde, et essayer de comprendre les cadres d'expression et de non-expression de l'illégitimité de naissance. Ce qui est intéressant, c'est que pour décliner son identité au Moyen-Âge, on passe par plusieurs vecteurs qui ne fonctionnent pas tous de la même manière. Il y a d'abord les titulatures. Alors une titulature type, ça peut être haut et puissant seigneur, monseigneur Louis Bâtard de Bourbon, comte de Roussillon et amiral de France. Oui, c'est très long. Ces titulatures sont très structurées. Il y a des épithètes d'honneur, des avant-noms, le nom, les titres éventuels des tâches ou des seigneuries ou des fonctions ou des offices. Ces titulatures sont propres à chaque personne et elles montrent le rang social. Elles révèlent le rang social. Le terme « bâtard » qui est employé dans ces titulatures, parce que c'est le terme qui est employé à ce moment-là, apparaît pas du tout comme une insulte, mais comme un titre de noblesse. Ce qui ne veut pas dire que « bâtard » ne peut pas être employé comme une insulte dans un autre contexte. Et ce titre est conféré, au même titre que les armoiries, par le géniteur. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que « bâtard », devenu titre, est peut être utilisé, soit entier, soit abrégé, de différentes manières, dans les signatures ou éventuellement dans la légende des sceaux, et que ce titre disparaît avec son détenteur. En plus des titulatures et de la mise en mot de l'illégitimité, on a l'héraldique. L'héraldique, elle va être transmissible. Ce qui pose assez rapidement, alors pas un problème, mais une interrogation, c'est qu'un enfant naturel qui aurait donc des brisures de bâtardise ou une brisure de bâtardise sur ses armoiries est susceptible de transmettre cette brisure à ses enfants légitimes. Ce qui signifie qu'en fait, des enfants légitimes portent une brisure de bâtardise sur leurs armoiries. Et donc, transmettre la mémoire de l'illégitimité de naissance de l'aïeul. Et à l'inverse, on peut avoir alors ce que j'ai appelé des cumuls généalogiques d'illégitimité, c'est-à-dire c'est quand vous avez des enfants naturels qui eux-mêmes ont des enfants hors mariage et que ces cumuls se superposent sur une armoirie. En plus des titulatures et de l'héraldique, vous avez l'emblématique. Donc ce sont tous les symboles extérieurs à l'écu armorié. L'emblématique, c'est un peu plus compliqué, c'est à la fois un peu plus libre, c'est-à-dire que vous avez des symboles qui circulent beaucoup plus facilement, qui s'échangent beaucoup plus facilement entre les enfants naturels et les enfants légitimes d'une famille. Il y a toujours des exceptions, mais c'est globalement plus libre. De fait, on a des enfants naturels, leurs descendants, qui disposent de langages identitaires qui sont extrêmement protéiformes et plus ou moins contraignants. Et avec tout ça, ils arrivent à composer une identité propre. Et un problème, en fait, lié à cette identité, c'est la question de la catégorisation. C'est-à-dire qu'on parle des bâtards comme d'une catégorie, ayant pour dénominateur commun une illégitimité de naissance. Mais quand on regarde véritablement dans les faits, il existe des formes de bâtardise très variées. C'est-à-dire qu'être un bâtard laïque de prince n'est pas la même chose qu'être un bâtard membre du clergé, ou être une fille bâtarde, ou même probablement être un bâtard de la bourgeoisie ou de la paysannerie. La référence à la bâtardise est nécessaire donc dans les titulatures, parce qu'en fait, ces titulatures et cette bâtardise va permettre aux enfants naturels de se rattacher au géniteur. Vous êtes bâtard de Bourbon. Et donc, la bâtardise est un prétexte, enfin une fonction, pour vous rattacher à un groupe de parenté qui est là, en l'occurrence, un groupe de parenté puissant, qui vous confère un statut social. De fait, les enfants naturels n'ont pas véritablement d'intérêt à cacher leur illégitimité de naissance. C'est elle qui va les inscrire dans une parenté au sens anthropologique, horizontale et verticale, et qui définit leur place dans le groupe familial, par extension qui définit leur place dans la société. En d'autres termes, afficher leur bâtardise va permettre aux enfants naturels de se distinguer au sein du groupe, mais ne va pas les exclure. Il y a un texte qui est assez significatif sur ce thème-là. Donc, c'est une concession de terre du duc Jean Ier à son frère naturel Hector, et cette concession date de 1413. Et il justifie la concession de cette terre à son demi-frère, je cite, considérant la très grande amour que nous avons toujours eue et encore avons de plus en plus envers le dit Hector, La bonne et vraie amour et obéissance qu'il a toujours eu envers nous et la grande prochaineté qu'il a à nous qui est notre frère naturel. Donc dans cette phrase, en fait, on va voir l'amour, l'amour idéal, l'amour réciproque entre les deux membres du groupe, qui est un amour revendiqué et qui est celui qui existe ou qui est censé exister naturellement au sein d'un groupe de parents qui n'a pas forcément de lien avec la réalité de l'affection entre les deux parents, mais qui est censé exister naturellement au sein d'un groupe de parents. Mais ce qui montre véritablement le lien, c'est la prochaineté, la proximité. C'est une forme de pratique de la parenté issue d'interactions sociales, d'interactions quotidiennes, qui font qu'à un moment donné, les bâtards font famille avec les membres légitimes du groupe. Cette capacité, en fait, à renforcer, cette capacité des bâtards à renforcer le groupe familial est utile aux princes à la fin du Moyen-Âge. Et donc, les enfants naturels sont pensés, employés, comme des soutiens politiques, économiques, familiaux du prince dans un contexte de rivalité croissante avec le pouvoir royal. Chez les Bourbons, il y a très peu de bâtards qui se retourneraient contre leur prince et, il y en a éventuellement peut-être un, qui se retournerait contre leur prince et qui prendrait un autre parti. Ça existe dans d'autres familles, mais en fait, on voit que chez les Bourbons, les bâtards sont d'une bonne, très bonne fidélité vis-à-vis de leur prince.
Marie-Lise, le livre issu de ta thèse va bientôt sortir dans la collection Histoire des presses universitaires de Rennes. Il s'agira de la version mûrie de cet objet de recherche que tu portes en toi depuis des années. On sait aussi qu'il faut consentir à une certaine concentration de sa pensée, voire même à des coupes claires dans le manuscrit d'origine. Alors j'ai envie de te poser une question maintenant que le travail de mue est achevé. Saurais-tu nous dire à quoi tu ne renonceras pour rien au monde dans ces objets de recherche?
C'est le genre. C'est l'analyse de genre, les études de genre. L'idée que de toute façon, on n'arrivera pas à comprendre une société, une famille, une organisation sociale sans étudier les relations, les hiérarchies et les interactions entre les membres masculins et féminins du groupe. Ça, aujourd'hui, ce serait vraiment passé à côté de quelque chose. Donc ça, vraiment, je renoncerai jamais au genre. Et il y a une autre chose que j'ai engagée dès le master, que j'ai continué, j'étends maintenant, c'est la comparaison. Toujours comparer notre objet d'étude avec un autre sujet approchant. Alors moi c'est vrai que dans la thèse je travaille sur les enfants naturels, donc les bâtards, mais je parle énormément de cadets ou de cadettes. Donc en fait, il y a une espèce de comparaison constante avec les autres formes de filiation différenciée. Pourquoi les cadets et les cadettes? Parce qu'en fait, dans la hiérarchie intrafamiliale, vous avez l'aîné qui hérite, en quelque sorte. Les cadets et les cadettes qui n'héritent pas, mais qui ont un statut immédiatement inférieur aux aînés. Et cette idée que les enfants naturels, eux, arrivent tout de suite en dessous, c'est-à-dire qu'ils doivent être suffisamment hauts pour ne pas porter préjudice à l'honneur de la famille et être au rang de la famille, mais quand même, ils doivent être en dessous des cadets et des cadettes pour éviter de leur faire de leur faire de l'ombre. Donc, véritablement, la comparaison constante avec d'autres cercles, oui, ça, c'est absolument indispensable. Ça a donné surtout un travail de thèse sur les hiérarchies intrafamiliales, donc qui est aujourd'hui étendu à un intérêt soutenu pour les cadets et les cadettes. C'est un groupe qui est souvent cité, ce que j'ai souvent employé, souvent mobilisé, mais c'est un groupe qui a été peu étudié en tant que tel, et donc qui fait l'objet de recherches un peu plus récentes.
Merci Marie-Lise.
Je Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent. Je suis accueilli par la MIF comme Lee Wellin à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère. Subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards. Pour chasser comme les albis jouant en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres. J'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards. Un stylo, un style de barbare. Pour mettre en musique des rimes de bâtards. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. Et on sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des maculés, des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des ratures et des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des vies brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclairs si y'en a pas une seule par journée. Et pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus.